BFM Business et CB News présentent HebdoCom avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans HebdoCom sur BFM Business. Aujourd'hui, on sera avec Georges Mohamed Chérif, le patron de Buzzman, qui viendra nous parler de ses dernières campagnes et du bilan créatif de l'année. On s'intéressera au marketing de la voix avec Raphaël Gedge, le patron de Silk, agence dédiée à Amazon, et Laurent Habib, le patron de l'agence Babel et de l'AACC. Et puis en fin d'émission, on rencontre avec Eric Breu, le directeur entreprise et institution d'audience. HebdoCom, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, HebdoCom, les news.
Bonjour Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News.
Bonjour Aurélie.
Bonjour Marie Valogne. Bonjour, on vous retrouve Aurélie. Comme chaque semaine pour les news. Et Marie, une publicité émouvante a retenu votre attention cette fois.
Et oui, c'est la publicité de la fondation 30 millions d'amis qui dévoile une nouvelle campagne contre l'abandon des animaux de compagnie à l'approche des vacances d'été. C'est une campagne organisée avec l'agence Altman Pacro. Alors attention, âme sensible, s'abstenir. On découvre l'histoire d'un labrador et sa vie aux côtés d'une petite fille. On suit les étapes de la vie de ses deux compagnons qui ne se quittent pas quand elle est malade. Il est là. À son premier baiser d'ado, il est là. Quand la jeune fille grandit et devient maman, il est encore là. Jusqu'au jour où c'est elle qui l'accompagne chez le vétérinaire à la fin de sa vie. Et la publicité se conclut par cette phrase. Quand un chien abandonne son maître, ce n'est pas pour partir en vacances.
Une phrase choc, effectivement, Marie. Dans un tout autre genre, c'est Heineken qui s'est offert les services de Nico Rosberg.
Et on découvre un pilote très exigeant, le champion du monde 2016 de Formule 1, est très à cheval sur son entraînement. Il n'accepte pas une minute de retard, pas un pain au chocolat le matin, pas un millimètre de décalage sur la ligne de départ. Et même après la course, quand on lui propose juste une bière, eh bien c'est non, car il rentre en voiture. Avec cette publicité, Heineken invite les conducteurs à ne pas boire quand on prend le volant, même pas une bière. La campagne est orchestrée par Publicis Italie.
Et puis à l'approche des Cannes Lyon, YouTube a dévoilé le classement des publicités qui sont les plus populaires dans le monde.
Et 10 vidéos font partie de ce classement. Elles comptabilisent en tout plus de 465 millions de vues sur YouTube. Alors sur le podium, on trouve une publicité de LG en Inde, suivie par une de Clash of Clans en Finlande. Et en troisième position, une publicité française, celle de Miss Dior avec Nathalie Portman.
Et puis Le Bon Coin met en scène Franck Leboeuf et Marcel Desailly dans sa toute dernière campagne.
Dans deux vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, les joueurs sonnent chez des particuliers qui ont mis en vente des souvenirs de l'équipe de France sur Le Bon Coin. Une cravate siglée avec le score de la victoire ou une cassette du match. Sauf que les joueurs ne viennent pas chez ces particuliers pour les acheter, mais pour les convaincre de ne pas s'en séparer, parce que des souvenirs de 98, eh bien, ça ne s'achète pas.
Bah, tu peux pas la vendre. C'est un magnifique souvenir. Ouais. Tu as devant toi l'un des vestiges de la plus grande victoire sportive que la France ait jamais connue. Pour le plus grand match de ma carrière, tu peux pas la vendre. Par contre, on peut se la remater.
Alors, franchement, j'adorerais. Bon, le truc, c'est qu'on est en 2018, donc il faudrait un magnétoscope pour ça, et là, c'est compliqué, mais...
Ouais.
Ouais.
Mais pour ça, on va aller sur Le Bon Coin.
En 98, Le Bon Coin n'existait pas, et aujourd'hui, près de 2200 objets collector du match France-Brésil y sont en vente. La campagne est signée à Vasse Paris.
Frédéric, difficile de passer à côté du foot cette semaine en termes de pub.
Ah là, c'est même littéralement impossible. Je pense qu'il n'y a pas un écran publicitaire, il n'y a pas une annonce, il n'y a pas une affiche sur laquelle on parle de foot. Ça peut-être être une bonne idée de se décaler par rapport justement à la voix générale, mais pas facile non plus.
Ben on fera le point tiens avec vous, Marie, la semaine prochaine. On fera une spéciale foot dans les news. Tout de suite, notre invité de la semaine.
BFM Business. HebdoCom, l'invité.
Et cette semaine, on accueille Georges Mohamed Chérif. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le patron de Buzzman et vous lancez cette semaine une toute nouvelle campagne. Et ça parle de couches, mais des couches un peu spéciales, c'est ça?
C'est des couches culottes un peu spéciales, ouais.
Qu'est-ce qu'elles ont de spécial?
Elles ont la particularité d'être très saines. On a eu des études qui nous ont montré que il y avait des produits qui étaient un peu toxiques pour les enfants ces dernières années. Donc elles ont cette particularité là et le deuxième particularité c'est qu'elles sont livrées et que c'est un service d'abonnement en fait pour être livrées de ces couches.
Mais alors elles ont, je connais pas le nom de la marque, mais elles ont des trucs inscrits dessus, c'est ça?
Oui, en fait elles sont ça s'appelle Little Big Change. Donc
d'accord.
Ça, c'est le nom de la marque. Et elles ont des choses écrites parce que justement, c'est la signature de la marque. C'est les couches qui ont quelque chose à dire. parce que dans le monde de la couche, on a eu tendance à avoir des discours assez plats, que les couches étaient absorbantes, supra-absorbantes, et ça s'arrêtait à ça. Et aujourd'hui, nous, on arrive avec cette marque. C'est la première fois qu'on fait une campagne pour des couches culottes, et de produits un peu, on va dire, lessiviers.
Ouais.
Et comme on aime bien ça, on aime toujours prendre un petit peu un petit parti pris assez fort. Et donc là, les couches, il y a des messages écrits dessus, et c'est le thème même de la campagne, puisque c'est
les... Vous avez joué avec les bébés en les plaçant différentes,
exactement,
de façon à former des phrases, en fait, avec les couches.
Exactement. Donc c'est les enfants eux-mêmes qui délivrent le message qu'on veut délivrer aux gens et aux consommateurs. Ouais. Et ils disent des choses qui sont assez fortes, je crois.
Et donc ces couches, on les commande sur internet.
Ouais. Tu vas sur un site et tu les commandes, et tu es livré à la fréquence et à l'endroit de ton choix.
D'accord. Et la fabrication est française?
La fabrication, c'est une marque française, mais la fabrication est en Allemagne.
D'accord. Ok.
Donc on sait que c'est vrai que les Allemands sont assez pointus sur les...
Sur les couches, je sais pas.
Non, les objets... J'allais dire les produits écolos, Fred. Excusez-moi, je ne me serais pas permise. Autre campagne du moment chez Buzzman, c'est celle que vous avez fait pour EasyJet, où vous avez pris le parti comme ça de mélanger des villes et de faire des jeux avec le nom des capitales européennes, c'est ça?
Oui, parce qu'en fait, on avait le brief, c'était de dire que il y avait des vols à partir de 35 euros. Et donc, on a proposé de dire aux gens qu'en fait, à partir de ce prix-là, on pourrait presque partir deux fois. Et donc, on a fait une première campagne print qui est sortie il y a une quinzaine de jours, qui mélangeait le nom de deux villes. Et là, en fait, on aime bien ça. D'ailleurs, les couches en sont un exemple. C'est que chez Buzzman, on aime bien... Enfin, c'est une sorte de... Pas une mode, mais presque... C'est de rendre solide et réel,
tangible
les campagnes qu'on fait. Donc là, en fait, on s'est dit, en fait, on a qu'à faire un guide avec deux pays au lieu d'un. Et on a fait ça, on a fait ce deal avec Lonely Planet et EasyJet, on a fait ce partenariat. Et du coup, ça devient concret. C'est pas juste une proposition commerciale. C'est quelque chose qui sert les gens. Ça leur sert, en fait. Comme les couches vont, les mamans vont pouvoir utiliser les mots pour pouvoir délivrer un message et les poster sur Instagram.
On approche de Cannes, on voulait faire avec vous aussi le bilan de l'année.
Ah bon?
Quel est je crois que ça n'aura échappé à personne. Quelle est pour vous la campagne dont vous êtes le plus fier chez Buzzman cette année?
Je pense que la campagne de Little Big Change, pardon, elle aura beaucoup de chance l'année prochaine, mais cette année, je crois que c'est je dirais que nos chances, elles sont beaucoup sur Burger King. Il y a une campagne qui s'appelle Whoopergate, où on a proposé aux Belges de faire le choix entre Burger King et le King Philip. Pour savoir qui était celui qui... Il y avait deux rois, il fallait en choisir un seul.
Ils ont choisi qui?
Ils ont finalement choisi le King Philip quand même. Mais du coup, on a même communiqué là-dessus, puisqu'on a enlevé le mot King. On a abdiqué, en fait, et on a enlevé le mot King de notre logo. Donc on s'appelait plus que Burger. Et ça refait parler de la marque, puisque c'était le lancement de la marque en Belgique. Et donc ça, c'est la campagne dont moi... je pense qu'on a le plus de chance. Je pense qu'elle a eu beaucoup de RP au niveau international. Après, je pense que les Français aussi, on a quelques chances qui sont somme toute assez fortes. J'en vois deux ou trois qui... Peut-être c'est la question que vous allez me poser.
Oui, il y a entre autres celle-là.
Faites les questions, les réponses.
Voilà, c'est ça.
Mais aussi pas seulement les campagnes françaises. Est-ce que dans les campagnes mondiales qu'on a vu cette année, est-ce que j'ai envie de dire, est-ce qu'il y en a une que vous auriez énormément aimé faire?
Je pense que la campagne que j'aurais aimé faire en termes de puissance, c'est la campagne de Nike pour la ville de Londres.
Ouais.
Alors Cocorico, elle a été faite par des réalisateurs français, les Megaforce. Je pense que c'est celle qui m'a le plus retourné, quoi. Mais franchement, les campagnes françaises, que ça soit Intermarché, les bons légumes ou la campagne Lacoste avec les animaux en extinction, ou Greenpeace aussi, moi je pense que c'est les trois chances françaises les plus fortes. Je pense qu'on a pas à rougir.
La France est revenue dans le jeu, dans l'international, ou
je pense que cette année il y a eu une sorte de dépression vis-à-vis de Cannes et vis-à-vis des awards. Oui. Je pense que une sorte de mini dépression où les gens on a un peu subi une sorte de coup de fouet où Cannes a un peu cherché sa raison d'être.
Mmh. Après la décision de Publicis de pas y aller notamment ou...
Non, la je pense que franchement la décision de Publicis elle a été c'était assez opportuniste et je pense que ça fait longtemps que on en avait tous marre les agences de se dire on paye beaucoup trop ce genre de prix et ça coûtait beaucoup trop d'argent aux agences. C'est assez bien vu de la part de Arthur d'avoir d'avoir communiqué là-dessus, mais non, je pense que surtout il y a une sorte de, à partir du moment où il y a trop de prix, il y a trop de catégories, ouais. On sait plus trop ce qu'on récompense. Mm-hmm. Et honnêtement, moi je suis le premier, cette année je vais à Cannes et j'ai une sorte de mini déjà je pars pas toute la semaine, je vais partir que la moitié, je suis pas à fond dessus, mais ça n'empêche que la France a fait vraiment des belles campagnes. Je pense pas que ça soit une très très grande année. Cannes, il n'y a pas eu des campagnes vraiment qui ont bouleversé le marché publicitaire mondial. Et en France, honnêtement, à part les trois ou quatre campagnes que je viens de vous citer, il n'y a pas des trucs qui ont vraiment bouleversé le paysage français. Il me semble, en tout cas, c'est mon avis. J'étais plus bluffé les années précédentes.
Non, on suivra ça de toute façon, Fred.
Mais après, on est en 2018 et en 2019, on sera tous... je pense que vu le palmarès de 2018, je crois que ça va tous donner envie aux gens de faire des très belles campagnes.
D'être meilleurs en 2018.
Ouais, je pense. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit tous au Grand Prix Stratégie. Là, on s'est dit, cette année, c'était une année bof.
Bon, bah, ce sera mieux l'année prochaine.
Hope so.
Merci Georges Mohamed Chéri, je rappelle que vous êtes le patron de Buzzman.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. L'édito.
Et cette semaine, c'est avec Charlotte Bricard de la rédaction de CB News.
Charlotte, avec qui on va continuer sur le sujet de Cannes.
Oui, où nous nous rendons d'ailleurs à l'occasion de l'ouverture du prochain Festival International de la Créativité. Vous le savez, ça s'ouvre lundi, on va suivre ça de près. Et sur ce terrain-là aussi, les pronostics ont commencé. Le réseau Léo Burnett, par exemple, a publié, comme chaque année, la liste des 20 prétendants au titre de Grand Prix. Et comme le disait Georges à l'instant, malheureusement, il n'y a aucune campagne française sur cette liste. Alors, j'ai voulu regarder quel était le dernier Grand Prix français. Et ouais. Il se trouve que c'est un film dont on a parlé dans cette émission et dont on a parlé pas mal cette année, qui mettait en scène à l'époque un lion et une jeune femme.
Perrier.
Quelle mémoire, Frédéric. Oui, on en a parlé puisque l'agence Ogilvy l'a revisité en mettant en scène non plus un lion mais un lionceau et non plus une jeune femme mais une jeune fille,
ouais,
pour vanter les fines bulles de l'eau de Perrier. À l'époque, en l'occurrence, ils avaient fait appel à Jean-Paul Goude, qu'ils avaient approché au sommet de son art. C'était juste un an après qu'il ait été justement récompensé d'un Lion d'Or à Cannes pour le non moins sublime film Égoïste.
Oui, absolument.
De Chanel. Et j'ai trouvé une anecdote assez rigolote à ce sujet que je voulais partager avec vous. C'est que ils se sont rendus compte, en fait, en arrivant sur le lieu du tournage en Afrique, qu'un lion qui rugit ne montre pas ses crocs, ou à peine. Et du coup, ils ont dû passer à l'époque une journée entière à attendre que le lion bâille pour avoir un plan de lui gueule béante.
Mais du coup, ça fait combien de temps? Parce que c'est pas tout jeune, ça. Donc, on n'a pas eu le Grand Prix français depuis combien de temps?
C'est aussi jeune que vous et moi, Aurélie.
C'est-à-dire très jeune. Ça fait il y a pas longtemps, en fait, c'est ça?
C'est ça. C'était en fait en 1991. Donc, c'était il y a exactement 28 ans déjà.
Bon, ici, j'ai bien compris. Pour cette année, on repassera encore.
C'est ça.
Merci Charlotte.
Rendez-vous en 2019.
Votre rendez-vous avec Audience. Santé, prévoyance et prévention. Audience, la protection sociale créative au service de la communication et des médias. BFM Business. Hebdo.com. Le Zoom.
Le Zoom du jour autour de la voix et des enceintes connectées avec Raphaël Gage. Bonjour.
Bonjour Aurélie.
Vous êtes le patron de Silk, une agence dédiée à Amazon. Et Laurent Habib, bonjour.
Bonjour.
Président de l'agence Babel et de l'AAC. Les dernières semaines, Frédéric...
AACC.
AACC, bien sûr.
Agence Toi, Conseil en Communication.
Ça n'a pas de sens sinon. Frédéric, ces dernières semaines ont été marquées par l'arrivée des enceintes connectées. On a beaucoup parlé évidemment de celles d'Amazon. Il va y avoir Apple prochainement. Ouais. Google est là depuis déjà un petit moment. Sauf qu'en fait, Frédéric, c'est vrai qu'on se disait, on ne sait pas trop comment les annonceurs vont trouver leur place là, c'est ça?
Bon, on ne sait pas très bien comment ça va fonctionner. En vérité, pour les annonceurs, parce que contrairement aux autres supports où on peut s'étaler, là, il y a pas vraiment une pluralité possible. Donc, alors vous, Raphaël, vous êtes spécialisé dans Amazon. Vous devez avoir du travail là cette semaine.
Alors, je vous confirme, c'est vrai que c'est un sujet qui commence à remonter. Pour répondre à cette question, en fait, les annonceurs ne savent pas trop comment mettre en avant leur marque, mettre en avant les annonceurs, mais les plateformes ne le savent pas non plus. En fait, Amazon, Google cherchent énormément leur modèle. Mm-hmm. C'est quelque chose, je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un marché qui en est à ses prémices. C'est un peu comme si on était à l'époque du 3310 avec son application Snake. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Amazon, Google sont en train de comprendre comment l'utilisateur utilise dans la recherche vocale, dans les applications qu'on appelle skills, on va en reparler, ou dans l'achat, dans le transactionnel, comment les utilisateurs apprécient cette nouvelle technologie et ils veulent pas aller trop vite. Donc Amazon ne veut pas monétiser trop vite cette plateforme qui est en pleine phase d'adoption et ils sont en train de réfléchir à ça.
Laurent Habib, quelle est la réflexion des annonceurs? Où est-ce qu'elle en est?
Mon sentiment, c'est que d'abord, c'est difficile d'imaginer une vraie place durable pour des marques de second rang. Parce qu'en réalité, l'interface vocale, c'est quoi? C'est cette possibilité qu'on a d'avoir à la place du doigt ou de la souris, une interface avec le monde Internet, grâce à la voix, à l'endroit où on se trouve, dans la fonctionnalité qui est la plus naturelle, dans l'endroit où on se trouve, dans le salon, dans la voiture, dans son bureau. Mmh. Et en fait, toute la difficulté, c'est que si vous demandez à Alexa quelque chose et qu'elle vous dit ben on va vous passer maintenant la voix de Monoprix, vous allez pas vous taper deux interlocuteurs avec deux façons de faire une commande, deux tonalités différentes, etc. Donc moi, là où je suis un petit peu inquiet, c'est qu'au fond, je pense que c'est un marché qui va révolutionner l'interface avec le digital totalement, mais que ce marché sera en réalité tendanciellement monopolisé par les très grandes interfaces vocales qui vont dominer notre monde. Netflix ou Apple dans le salon, Alexa pour le commerce, Google vraisemblablement pour l'accès à la connaissance et l'accès au contenu, en tout cas une partie des contenus, et peut-être là aussi Google dans la voiture, puisque Google détient Waze et que Waze risque d'être l'interface par laquelle on va demander des choses. Et donc la difficulté, c'est que c'est un marché en réalité assez concentré, pas monopolistique, donc pas attaquable par le droit de la concurrence, mais assez monopolistique, dans lequel les marques vont avoir un choix terrible, c'est que pour accéder aux consommateurs, il faudra qu'elles deal avec ces cinq acteurs. Il faudra qu'elles deal avec ces cinq acteurs en tant qu'en fait médias, comme intermédiaires vers le consommateur, et avec une difficulté que moi je pense qu'il faut anticiper, qui est de continuer à avoir une présence à l'esprit de la marque pour que vous disiez je veux des piles Energizer et pas je veux des piles, parce que si vous dites je veux des piles, ben à la fin c'est Amazon qui gagne puisque Amazon fabriquera ces piles.
Raphaël Guetsch, c'est le danger ça pour les marques de en fait se faire cannibaliser entre guillemets par Amazon et autres d'ailleurs, et que au final ce soit l'intelligence artificielle qui décide à notre place des produits qu'on veut consommer.
Alors exactement, ça c'est un vrai risque qui est soulevé par tous les annonceurs. Il faut bien comprendre en fait qu'il y a trois usages avec l'intelligence artificielle, avec les assistants vocaux. Le premier, c'est la recherche, c'est le search, je cherche une information, l'intelligence artificielle me répond. Et ensuite, il y a deux usages, on va dire, sur lesquels les annonceurs, les marques vont être intéressés. C'est le transactionnel, achète-moi des piles, Alexa achète-moi des piles, et c'est les skills. Les skills, c'est ces applications. En fait, il faut vraiment voir Amazon, donc je laisse, alors pour répondre sur le transactionnel, effectivement, il y a un gros risque. Amazon, Alexa, quand on fait le test, qu'on lui demande de nous acheter des piles, va vous proposer seulement deux choix. Le premier choix, Amazon va tout de suite se référer à son historique de panier. C'est-à-dire, si vous avez déjà acheté des piles, elle va automatiquement vous remonter en premier choix votre historique.
D'accord.
Si vous n'avez pas acheté des piles, elle va vous proposer ce qu'on appelle Amazon Choice. Amazon Choice, c'est le produit qui est remonté par Amazon.
C'est la tête de gondole.
C'est la tête de gondole
sur laquelle Amazon a pris une partie de la valeur significative parce qu'elle a négocié cette position de tête de gondole. Comme les hypermarchés l'ont fait. Oui, mais le problème, c'est que c'est encore une couche de plus qui vient se poser sur les marques européennes. Puisque les marques européennes ont déjà payé à l'hyper, là maintenant elles vont payer à Google et à Amazon pour être présentes dans la relation.
Alors aujourd'hui, le Amazon Choice, c'est censé pour Amazon, comme Amazon le revendique, comme étant l'offre la plus pertinente pour le consommateur. Donc aussi bien en termes de rentabilité pour Amazon que de vente.
Va chercher un aspirateur sur Amazon. Si tu veux, on fera les laisser. À moins de dire je veux un Dyson, tu vas voir que le Amazon Choice t'amène sur des marques que tu connaissais, dont tu connaissais même pas l'existence et dont tu n'imaginais pas que t'allais acheter ça, parce que le Amazon Choice, c'est un mélange entre le prix et la recommandation client.
Tout l'enjeu aussi, alors à ce moment-là, c'est de, pour les marques, de promouvoir leur présence. Ouais. Comment est-ce qu'elles vont faire
Justement. Donc, le très bon point, c'est que ça, c'est le transactionnel et effectivement, ça va être très limité pour les marques d'émerger parce qu'il y aura seulement deux places disponibles dans un rayon qui est le transactionnel. L'autre point, et c'est là où pour moi, à mon sens, et surtout à court terme, il y a le plus d'enjeux pour les marques, c'est sur les skills. Les skills, il faut voir ça, donc c'est Amazon qui appelle ça des skills. Il faut voir ça comme des applications.
Ouais.
Et ces skills, elles sont disponibles via l'appli, une application dédiée qui s'appelle Amazon Alexa, sur une bibliothèque de skills, un peu comme l'App Store aujourd'hui. Aujourd'hui, sur la sortie en France d'Alexa, il y a 200 skills qui sont disponibles. Amazon les a scrupuleusement sélectionnés, elles doivent enrichir l'expérience utilisateur. Aux États-Unis aujourd'hui, il y en a plus de 30 000. Et donc en fait, là où les marques ont un rôle à jouer, c'est pas tant dans le transactionnel pour driver de la vente tout de suite, mais pour créer une relation avec ses consommateurs et pour maximiser l'usage des marques.
Alors, c'est un moment d'espoir qui va être malheureusement vite douché. Vous avez dans vos téléphones des centaines d'applications, vous en utilisez 5. C'est la statistique absolue. Et en fait, ces skills, la réalité, c'est que vous en utiliserez 2-3 en complément de vos 3 ou 4 interfaces vocales. La bataille va être terrible.
Non, mais vous êtes en train de nous dire que toutes les marques, elles vont mourir, là, Laurent Habib?
Je me suis permis de poser la question, et vraiment au nom de l'ensemble du marché européen, je vous dis, les marques ont une question d'existence qui est aujourd'hui posée. Avant, elles avaient un besoin d'assurer leur préférence. Aujourd'hui, je pense que pour la première fois, nous avons des questions d'existence pour les marques.
Et mais quand je vous dis d'existence, c'est le moyen d'interagir directement avec le consommateur plus facilement.
Mais interagir par l'intermédiaire de quelqu'un qui aura fait payer cette place pour interagir.
D'accord.
En fait, aujourd'hui, vous prenez le numéro 1 du voyage SNCF. Si Voyage SNCF ne prend pas sa position, demain, le voyagiste auquel vous aurez affaire, vous connaîtrez pas son nom. Parce qu'en réalité, c'est Google qui va choisir. Si vous faites une recherche pour un vol d'avion, pour un pays étranger, vous demandez pas la compagnie, vous demandez l'horaire et le prix. Et de cette combinaison, la marque disparaît. Et en fait, le problème, c'est que la part des marques dans notre consommation va encore diminuer de façon drastique. Donc, si on veut, c'est pas un message terrible, c'est un message qui incite à l'action. Il faut construire des contenus, construire une relation.
C'est plutôt une bonne nouvelle
pour les
agences.
Trouver des interfaces. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les agences
de pub.
Si les annonceurs veulent bien se réveiller à temps. Car s'ils se réveillent trop tard, ils n'auront plus d'argent pour payer ni leurs salariés, ni les agences. Et nous, on est liés au sort des annonceurs. Il faut que les annonceurs prennent conscience de l'importance de leur relation directe avec les consommateurs. Ce qui veut dire, et qui n'est pas du tout à ce moment-là concurrentiel du chemin des grands acteurs du digital, c'est construire des contenus, construire des relations, trouver une fonction au lieu physique, réfléchir à la façon de construire des nouvelles interfaces relationnelles. Bref, tout le boulot des marques aujourd'hui est à faire en fonction de la nouvelle donne que va imposer l'interface vocale.
Merci.
Et pensez bien juste une chose, à la vie avant la télécommande de la télévision. Rappelez-vous que vous vous leviez pour changer de chaîne quand il y en avait 3.
Et donc, on va plus rien faire, j'ai bien compris.
Mais
Laurent Habib.
Tout changé.
Merci Laurent Habib, président de l'agence Babel et de l'AACC. Et Raphaël Gage, patron de Silk, agence dédiée à Amazon.
BFM Business, Hebdo.com, comme un chef.
Et aujourd'hui, nous sommes avec Eric Breux, directeur entreprise et institution d'Audience. Bonjour. C'est un groupe de protection sociale, Audience, mais à quel type de public est-ce que vous vous adressez?
Audience, effectivement, c'est un groupe de protection sociale qui couvre l'ensemble des métiers de la culture. L'ensemble des métiers de la culture, ça va du spectacle vivant aux agences de communication, aux régies médias, jusqu'à la culture tech.
Alors, sur quel thème est-ce que vous vous adressez à cette population?
Alors, nous, on a une offre de produits 360, très, très diverse et très, très riche, qui va depuis la couverture santé et prévoyance jusqu'à une offre de gestion sociale des intermittents en mode SaaS.
Et donc vous adressez plutôt à des professionnels, alors pas vraiment à des particuliers?
Alors nous adressons à la fois à des professionnels, à des entreprises et à la fois à des particuliers, à l'ensemble des indépendants du monde de la culture, intermittents, pigistes et autres freelances. Donc nous avons une communication à la fois B2B et une communication B2C.
Et par quel biais est-ce que vous allez toucher alors ces professionnels?
Alors nous avons fait le choix stratégique de la proximité, c'est-à-dire d'être proche de nos clients, de les rencontrer, d'organiser un certain nombre d'événements et surtout d'être en proximité dans les événements professionnels qui sont organisés par nos clients pour nos clients. Par exemple, nous serons au Lions la semaine prochaine. Nous étions déjà à Cannes pour le Festival de Cannes, où sur ce type de festival, nous rencontrons les professionnels indépendants, les professionnels d'entreprises et également les représentants de la profession, puisque nous travaillons beaucoup avec les branches professionnelles, patronales ou salariales.
Avec des campagnes dédiées, par exemple ?
Avec des campagnes dédiées, avec une campagne dédiée qui était sur Cannes, fait avec le gala, de manière à avoir tous les jours une offre mise en image façon cinéma de l'offre 360 du groupe Audience, et puis des campagnes physiques où on va rencontrer nos entreprises, rencontrer nos clients sur place, sur le Tour de France, sur un certain nombre de choses. Et puis on a fait également le pari de cette proximité s'appuyant sur des outils digitaux, c'est-à-dire que je ne pense pas que l'on puisse, et ça regroupe ce que disaient les prédécesseurs, il ne faut pas déléguer la relation client à la machine. C'est-à-dire que vous avez l'entreprise qui fait le business, la machine et le end-user. Nous souhaitons garder le contact avec le end-user, quel que soit, je dirais, son statut, mais en s'appuyant sur des outils digitaux modernes, d'où le lancement hier de notre tout dernier site.
Merci beaucoup Eric Breux, je rappelle que vous êtes directeur entreprise et institution d'Audience. Merci également à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.